Bonjour et bienvenue au numéro 1 du podcast des Chroniques d'Altaride. On va vous parler ici d'un certain nombre de sujets qui touchent les Chroniques d'Altaride, le jeu de rôle en général, et un certain nombre d'autres sujets éventuels qui sont connexes, comme le principe des Chroniques d'Altaride qui est de présenter les cultures de l'imaginaire en général en plus du jeu de rôle. Pour ce faire, nous avons présent ici ce soir un certain nombre d'intervenants des chroniques et de personnes extérieures qui vont venir nous aider et qui rejoignent l'équipe. On va commencer peut-être par présenter mes intervenants. Donc Benoît, je t'en prie, on va commencer par toi.
Bonsoir. Donc moi je suis le rédacteur en chef et le fondateur des Chroniques d'Altaride.
Benoît Chérel donc.
Sophie Pérez, donc je travaille pour les chroniques en tant que correctrice et il m'arrive de proposer des articles aussi.
Fabien Xavier.
Voilà, Xavier de Canteloube. Moi je suis joueur avec notre hôte, Julien, et je troll un petit peu sur les forums de jeux de rôle sous le pseudo de Globo, donc je salue les gens qui me subissent sur les trolls.
C'était donc lui.
Et Morgan Crestel, alias Julien Morgan, auteur, éditeur et aussi joueur aux tables de Julien quand il me laisse m'exprimer.
Ce qui est heureusement relativement rare parce que ça donne des résultats intéressants. Alors on va commencer notre discussion du jour en parlant des chroniques d'Altaride de décembre. Et on va laisser Benoît, donc notre rédacteur en chef qui est en train de mettre en place ce numéro, de réaliser la mise en page en particulier et la sélection des articles qui y sont présents, nous parler de ce qu'il peut déjà nous annoncer à propos du numéro qui devrait sortir très prochainement ou être sorti quand le podcast sortira.
Voilà, donc le numéro 31 de décembre 2014, qui sera sur le thème de la fête et du jeu de rôle. Donc qu'est-ce que je peux dire à propos de ce numéro, sachant qu'évidemment il n'est pas encore bouclé à l'heure actuelle. Il y aura un certain nombre de rencontres, c'est un numéro qui est axé sur des interviews et des rencontres avec un certain nombre de personnalités. Juste pour vous donner un peu envie, on va avoir... Didier Guizérix qui va être présent. En fait, c'est un partenariat avec Carlaf le Rôliste et Rôliste TV. Et on a eu la chance de rencontrer Didier à Octogone à Lyon en mois d'octobre. Et du coup, c'est le fruit de cette rencontre que vous allez pouvoir voir soit dans l'article, soit en vidéo sur Rôliste TV ou encore sur le blog de Carlaf. On va avoir aussi une rencontre avec le créateur de l'Appel de Cthulhu, Sandy Peterson. Donc une rencontre que j'ai pu faire grâce à l'aide de Cthulhu. Non mais l'Appel de Cthulhu, c'est le jeu de rôle. Ouais, c'est voilà. Donc c'est un peu un des papas du jeu de rôle. Du jeu de rôle moderne, et on est très heureux de pouvoir avoir quelques mots de sa part dans les chroniques d'Altaride. Et puis on a Croc, un autre légende du jeu de rôle, cette fois au niveau français, qui nous dit quelques mots à propos du revival un petit peu de son jeu In Nomine Satanis Mania Veritas, qui est en préparation chez Raising Dead. Voilà, et puis plein d'autres en fait, que je vais pas tous vous lister, mais il y a pas mal d'entretiens avec des personnalités plus ou moins connues du jeu de rôle. On aura aussi un gros scénario pour La Légende des Cinq Anneaux, avec des illustrations originales qui sont en préparation. Normalement, ça devrait être assez chouette. Et puis, des aides de jeu, notamment par Julien ici présent. Non, Julien et...
Et Willem.
Et Willem, pardon. Donc, à propos de la fête, comment gérer une fête, la fête des sorciers et la fête de l'ambassadeur, l'un et l'autre. Voilà, la suite d'un feuilleton qu'on avait déjà démarré il y a un moment sera également de la partie, et puis des tas d'autres choses, des tas de trucs sympas. Voilà, je ne vais pas trop en dire plus pour vous donner envie de découvrir ça par vous-même.
Et justement, qu'est-ce que, à ton avis, est le plus intéressant à lire dans ce numéro ? C'est une question piège, évidemment.
Alors, je suis désolé, moi je craque pour la rencontre avec Sandy Peterson, parce que l'Appel de Cthulhu, c'est un peu un des jeux de rôle mythiques, et avoir la possibilité de découvrir un peu plus de l'intérieur comment ce jeu a été créé, qu'est-ce que ça implique dans les changements qu'il a pu provoquer dans le milieu du jeu de rôle encore aujourd'hui. Et il nous parle aussi un petit peu de son nouveau jeu Cthulhu Wars, qui est un jeu de plateau mais dans l'ambiance de Cthulhu, et c'est chouette.
Et on sent le passionné quand il parle, Sandy Peterson.
Ouais, et puis il faut dire que l'Appel de Cthulhu, même si c'est un très vieux jeu, ça reste encore aujourd'hui une sacrée pointure. Ça marche fort. Dans le milieu du jeu de rôle,
Ouais, ça reste un des jeux les plus joués.
Voilà, et bien qu'il n'y ait pas eu de révolution au niveau règles, enfin, il y a eu quelques essais qui ont été faits, mais on est sur une version assez stable depuis les débuts quand même. Et
on a une septième qui s'annonce un peu plus changeante, mais
on verra.
Ça en est tour, on nous prépare quelques surprises.
Oui, et puis sur Cthulhu, il y a quand même aussi un certain nombre d'autres jeux qui ne sont pas l'appel de Cthulhu qui ont développé des innovations très intéressantes.
Oui, voilà. Il a influencé pratiquement tous les jeux d'horreur, par exemple. Et ça, c'est. Oui.
C'est quand même très intéressant. Donc Cthulhu Wars, pour le présenter rapidement, c'est un jeu de figurines, de plateau, en fait, un jeu de stratégie dans lequel les grands anciens sont en train d'envahir la Terre et de se battre pour le contrôle de la Terre. On trouve d'ailleurs une présentation du jeu et une présentation d'une partie sur TrickTrack, donc le site des jeux de plateau. Et sur TrickTrack TV, donc, vous avez Pete, un ami qui est à l'origine, ou en partie à l'origine, du lancement du jeu en version française en France, qui présente ce jeu grâce notamment à une boîte qui est parmi, d'après ce qu'il nous disait, une des seules trois boîtes complètes qui ont été réalisées pour Cthulhu Wars, et avec lequel il est venu chez TrickTrack pour le présenter. Donc dans l'article des chroniques, on trouvera... les liens pour ces ces vidéos. Voilà.
Moi j'ai du mal à imaginer ce que ça donne. J'ai du mal à me mettre dans l'imaginaire de l'appel de Cthulhu qui pour moi est un peu intime, un peu feutré et me dire on va sortir les planches de 4 mètres carrés, avoir des Cthulhu de 25 cm de haut sur la table. Enfin j' ai pas vu le jeu. Hein, et j'ai alors, je critique pas du tout le jeu parce que je le connais pas, mais j'ai du mal à me plonger dans l'imaginaire des guerres de Cthulhu. Quoi.
Alors l'idée du jeu c'est que tu vas donc incarner une faction qui va contenir au départ un certain nombre de cultistes. Ces cultistes apparaissent au niveau d'un portail, et grâce à ton portail et un certain nombre de mécaniques de jeu, tu vas pouvoir faire apparaître des créatures qui vont se battre les unes contre les autres, et le but du jeu, c'est de récupérer un maximum de territoire, et de récupérer... tu peux enlever les cultistes des autres, tu peux éliminer... Et en fait, tu as, si j'ai bien compris ce que j'ai vu, parce que je n'y ai pas joué moi-même... Tu as un certain nombre de points à accumuler, je crois qu'en anglais c'est des Doom Points, et quand tu as accumulé suffisamment de Doom Points, tu vas gagner la partie. Et pour les accumuler, selon la faction que tu joues, tu as différentes méthodes. Notamment, Sandy Peterson disait que c'est un jeu qui est profondément asymétrique, c'est-à-dire que chaque faction a sa façon de gagner, qui est différente des autres. Chaque faction a ses pouvoirs qui sont différents, une façon de jouer qui est différente. Et il nous disait dans l'interview en particulier que... il a beaucoup travaillé sur le fait que les factions soient équivalentes dans le jeu.
Voilà. Et elles ne sont pas pareilles, mais elles sont fun, en fait, parce qu'elles ont chacune un rouage différent. Moi, il a travaillé autrefois sur Age of Empires, qui est un jeu vidéo qui était basé justement sur cette logique de différence. Il y avait un équilibrage global qui s'installait, mais chaque faction, chaque peuple qu'on pouvait jouer avait une approche tactique complètement différente, et c'est ce qui rend les jeux fun, en fait.
Et sachant qu'il travaille actuellement, le site est ouvert, on peut aller le visiter, sur une version semblable un petit peu à Cthulhu Wars, mais dans le monde de Gloranta, donc le monde de RuneQuest, qui s'appelle La Guerre des Dieux, je crois. Voilà. Donc, écoutez, c'est pas mal pour le numéro actuel des chroniques. Et justement, ça nous permet de faire le lien, cette histoire de Cthulhu Wars, puisque Cthulhu Wars est actuellement en financement participatif pour sa version française. Un financement qui a déjà rencontré exactement la somme demandée, même plus d'ailleurs. On va parler un petit peu du crowdfunding, donc du financement participatif dans le domaine du jeu de rôle. Et alors pour ça, on a trois personnes ici qui ont déjà participé ou sont en train d'organiser des financements participatifs. Alors on va commencer par demander à Sophie, qui jusque-là est restée très discrète, de nous présenter son projet actuel, sur quelle plateforme de financement, et nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche pour le lancer.
Alors, pardon, donc le projet que je porte avec le collectif Contes et Bricoles n'a pas grand-chose à voir avec le jeu de rôle, en fait, puisqu'on a un collectif de conteurs. Donc ce projet, c'est pour financer un événement qui se déroulera en février 2015 à Chartres, et on est passé par la plateforme KissKissBankBank. Donc voilà, l'idée c'est d'organiser des soirées contes qui restent gratuites pour le public, d'où l'intérêt d'avoir des financements pour pouvoir quand même assurer la partie technique, la location, la communication, enfin tout ce genre de choses. Voilà, donc c'est un projet qui a été lancé mi-novembre et qui continue jusqu'à mi-janvier.
Donc on est à 80...
85%, qui est donc plutôt pas mal. Mais bon.
Je pensais que c'était 80 000 euros, je m'étais dit. Non. C'est soirée compte avec pyrotechnie et tout.
Non, on a fait plus léger au niveau de la somme demandée. On est à 850, c'est déjà pas mal, mais non, on est quand même assez modeste à ce niveau-là.
Et alors, ça va vous servir à quoi, tu disais, assurer le côté technique?
Ça va nous servir déjà à rémunérer le graphiste qui nous a fait le visuel de l'affiche, les impressions d'affiches, de flyers, ce genre de choses. Ça va nous servir également à couvrir tout ce qui est l'équipement technique, projecteur, son, tout ça, puisqu'on va intervenir dans les maisons pour tous de la ville de Chartres. Une maison pour tous, c'est un peu un moulin, quoi. On apporte un peu son matériel. Ils ne sont pas équipés, ce n'est pas des salles de spectacle. Donc on a besoin d'avoir un minimum d'équipement, puisqu'on jouera en soirée, donc on ne peut pas faire avec la lumière naturelle. Et la troisième partie, enfin le troisième poste, de cette somme-là, ce sera pour on veut faire un petit pot de l'amitié, un petit partager un morceau avec le public après le spectacle, donc voilà, faut quand même assurer un petit peu les boissons, de quoi grignoter, ce genre de choses. Et une partie aussi sera pour financer les frais de collecte, puisque la plateforme KissKissBankBank, comme pas mal de plateformes de ce genre-là, prennent un pourcentage sur la somme collectée, si la collecte réussit, évidemment. Voilà.
Et donc pourquoi KissKissBankBank par rapport à une autre? Il y a une petite histoire ou...
Alors pourquoi? Parce que moi je navigue depuis pas mal d'années dans le milieu du spectacle vivant, on va dire, et la plupart des projets qui ont une ambition professionnelle, on va dire, passent par KissKissBankBank.
Par cette plateforme.
Parce qu'ils ont une exigence au niveau des projets qu'ils sélectionnent, donc déjà c'est un gage de qualité de faire partie de leur sélection, qu'au moins le projet est bien construit, quoi, tout simplement. Et ils sont pas mal axés sur le côté soutenir des projets créatifs, que ce soit au niveau du spectacle, du film, des créateurs de design, de vêtements. Voilà. Donc eux, ils ont vraiment axé sur le côté créatif, donc ça nous a semblé cohérent de passer par leur plateforme pour faire cette collecte. Voilà.
Ok. Merci beaucoup.
De rien.
Oui, en fait, chaque plateforme a sa spécialité, quoi.
C'est un peu ce qu'on remarque, sur les plateformes de financement participatif, c'est que certaines, effectivement, tout ce qui est spectacle vivant, ça se passe beaucoup plus sur KissKissBankBank. Tout ce qui est édition et film, c'est plus sur Ulule. Tout ce qui est musique, c'est plus sur My Major Company. Elles ont un peu fait une image, mais bon, après, les frontières sont...
C'est des images qui sont créées par les utilisateurs, en fait. Enfin, moi, j'en parlais justement, on avait interviewé le patron de My Major, qui est un rôliste, Michael Goldman, dans un précédent chronique, le 28, je crois, et qui nous racontait que lui, il en crève quand il voit des projets de rôlistes qui pullulent sur Ulule, alors qu'il n'a rien sur My Major, alors que lui-même est rôliste. Ça l'emmerde, mais les utilisateurs ont créé des habitudes qui sont voilà. Maintenant, c'est vrai que quand un projet se crée sur Ulule, le lanceur du projet peut se dire, il y a déjà des gens qui ont créé un compte, ce sera peut-être plus facile pour eux. Je sais pas, hein, vas-y, interromps-moi si tu veux
le dire. Non, j'aime pas.
Mais voilà, il y a certainement moyen de lancer des projets relis sur autre chose qu'Ulule. Je suis persuadé que c'est pas forcément la meilleure plateforme pour ça, quoi.
Non, c'est quand tu dis les utilisateurs ont créé l'habitude, c'est vrai, et en même temps, pour My Major Company, je suis pas totalement d'accord, c'est My Major Company qui a créé l'habitude, parce que quand My Major Company a été lancé, très très vite, pour démontrer que ça marchait, que c'était formidable, et que ça mettait des étoiles dans les yeux, elles ont sorti un artiste, je sais plus comment il s'appelait.
Oui, bien sûr. Ouais.
Prénom débile.
Non, c'est clair que c'est une boîte qui a commencé par la musique.
Et voilà,
d'ailleurs, le nom lui-même, My Major, c'est je deviens éditeur de musique indépendant, quoi. Enfin,
donc de ce côté-là, j'ai presque envie de dire que c'est un peu My Major qui s'est tiré une balle dans le pied, parce que même si elle dit maintenant on finance, enfin tous les projets peuvent être sur My Major Company,
du coup, il reste
quand même
quoi.
Très ancré dans l'idée que c'est pour les artistes.
C'est vrai qu'Ulule a une image beaucoup plus généraliste.
Ulule a une image beaucoup plus générale.
Pour porter un peu tous les projets. Mais un peu le défaut que je vois aussi, c'est un peu fourre-tout. On a du mal à identifier, à savoir quel genre de projet peut se trouver là. Donc voilà, c'est un peu le...
Et donc, Morgane, Ulule.
Tu m'attends au tournant.
Bah, évidemment que je t'attends au tournant.
Sur quelle plateforme?
Non, alors, toi, t'as déjà. De manière générale, pas que sur Ulule, mais c'est vrai que surtout sur Ulule, qui a une, en plus une. Pour les gens qui ne connaissent pas, mais qui a une interface quand même très conviviale, très. Je sais pas, très. 21e siècle, jeune, hipster, enfin tout ce qu'on veut, c'est-à-dire l'interface jolie et épurée, et voilà, et ça se fait facilement. Donc c'est vrai que c'est vrai, moi je trouve que c'est le problème de toutes les plateformes quasiment maintenant de financement participatif, c'est que c'est un petit peu fourre-tout, c'est que il y a des projets qui sont des projets, je vais lâcher le mot, mais je suis obligé, des projets sérieux. Et puis il y a des projets qui sont d'une ineptie confondante. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'est.
Alors je connais assez mal le monde du crowdfunding. En tant que client de jeux de rôle, j'arrive de temps en temps vers un projet, souvent un peu tard d'ailleurs, voire quand c'est fermé, je me dis ah tiens merde ça m'aurait plu, bon trop tard. Mais par contre, je vais peut-être rapprocher ça de certains jeux vidéo. Où la communauté peut faire des scénarios, etc. Et tu t'aperçois que les scénarios qui sont faits par la communauté, il y en a quelques-uns qui sont très bien, et que le petit scénario de Monsieur Tout-le-Monde, il est quand même souvent pas terrible, quoi. Hein, ça pose c'est le problème de la création sur Internet. Certes, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Bon, on n'est pas tous des professionnels, hein. Ça se sent.
C'est la loi de Sturgeon, dans 90% de la production est à jeter à la poubelle.
Mais justement, on peut aussi se dire que les financeurs eux-mêmes ont un pouvoir.
Un rôle un peu d'éditeur.
Un rôle d'éditeur, c'est-à-dire que si tu finances, tu cautionnes. Et si le projet est d'obèsque mais que personne donne, il n'existe pas. Si par contre, le gars a réussi par sa communication à faire en sorte que des gens donnent, bah, effectivement, il va pouvoir faire émerger un produit qui ne méritait pas de l'être, qui aurait été évincé par des éditeurs ou des majors ou je ne sais quoi. Et finalement, par la puissance de persuasion du financement participatif, il va créer des projets.
Mais d'où l'importance, à mon avis, quand même, à la base, d'avoir une crédibilité. Parce que, je veux dire, bon là, je vais parler justement pour en parler du projet qu'on a lancé avec Voyal, donc qui est une maison d'édition basée à Orléans et pour laquelle je suis directeur de collection, et qui a lancé, donc sans moi, puisque quelque part, c'est pas ma collection, mais un projet qui s'appelle L'Heure Bleue, qui est un livre de poèmes illustrés qui contient plus d'illustrations que de poèmes dans les faits. Mais c'est un livre qui... un projet, en fait, qui, pour Voyelle, était très centré sur l'objet. C'est-à-dire qu'on avait envie de faire un beau livre, de faire quelque chose qui soit hors des sentiers battus, qui ne soit pas quelque chose d'imprimé de manière traditionnelle, qui favorise le beau papier, la belle reliure, qui mette en valeur vraiment le travail et de l'auteur, donc Richard Ellie, et de l'illustratrice Annick de Clercq. Et donc c'est vrai que pour ça on a lancé un financement participatif qui a été un franc succès, puisqu'on a récolté 150% je crois de l'objectif qui était prévu initialement, et qui allait en grande partie dans les frais d'impression. Mais ce projet-là, l'idée, c'était de dire, quand on l'a proposé, on a dit, écoutez, nous, on est Voyelle, on a des titres à notre catalogue, vous pouvez les voir, on fait montre d'un sérieux dans notre ambition éditoriale, on s'entoure d'illustrateurs et d'auteurs qu'on a envie de valoriser, parce que c'est un peu notre métier. Et donc, le financement participatif, c'est une solution pour dire, écoutez, nous, on a la caution morale et la caution professionnelle à mettre derrière. En revanche, ce qui nous manque, c'est l'argent. Et j'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre pour tout le monde. Mais quand Sophie disait qu'effectivement, le financement participatif montre un peu aujourd'hui un espèce de fourre-tout, c'est vrai que derrière énormément de projets, on ne sent pas la caution professionnelle. On a l'impression que, et moi c'est ce qui me gêne, on a l'impression que ce sont des gens qui finalement se passent du côté professionnel des choses et qui disent « mon projet, je peux le faire à partir du moment où j'ai de l'argent ». Or non, un projet, que ce soit un jeu de rôle, que ce soit un livre, que ce soit un film, ça demande un savoir-faire, et le savoir-faire, ça prend pas avec de l'argent, ou alors si, mais avec... du temps est investi de manière intelligente.
Tu amènes la question du temps, et beaucoup de retours sur le crowdfunding sont liés à cette fameuse question où on a des financements qui sont bouclés et dont on attend toujours la couleur finalement.
ou dont on est déçu par, par la couleur tout à l'heure sur, sur Facebook. Donc vraiment, c'est très très récent. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises parce que j'ai pas lu dans le détail, j'ai juste lu la réaction outrée d'un de mes amis qui apparemment avait participé au financement participatif de Noob qui avait lancé donc apparemment un crowdfunding pour des vidéos.
C'est le plus gros crowdfunding d'Europe en fait.
Voilà. Ouais, il se trouve qu'a priori les retours qu'ils ont, c'est une boutique pour vendre un petit peu tout ce qui appartient à la pop culture française, c'est-à-dire les BD de Noël Buck et les fins. En gros, l'ami en question s'est retrouvé à dire mais attendez, j'ai pas payé pour ça. apparemment le crowdfunding a marché au-delà des espérances et du coup le projet a changé. Mais il a changé, il n'a pas évolué avec...
Il voulait faire un film et il se retrouve avec une trilogie, en fait.
Alors, dans le détail, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai un ami qui a donné de l'argent, a priori, pour un projet, et qui se retrouve avec autre chose, qui ne correspond pas du tout. Et voilà, je trouve ça un petit peu...
Un peu facile, on va dire.
Un peu bizarre.
Mais... Bon, le crowdfunding, ça présente évidemment beaucoup de soucis de temps en temps, mais on a aussi des très belles réussites et des très très belles surprises. Moi, je peux mentionner... moi, j'ai participé à pas mal de crowdfunding, mais je participe essentiellement en VO sur Kickstarter pour un certain nombre de projets qui m'ont intéressé. Hein. J'ai participé à des projets pour des jeux de rôle, j'ai participé à un projet pour un jeu vidéo et pour un certain nombre de choses comme ça. Et jusque-là, j'ai jamais été déçu de ce que j'ai reçu en retour. Mais c'est vrai aussi que j'ai pas non plus financé des inconnus ou des amateurs évidents. Mais la question que je me pose à ce sujet-là, je sais pas ce que vous en pensez en général, c'est est-ce que, oui, le crowdfunding permet justement à des gens qui ne sont pas professionnels de se lancer dans le milieu, mais est-ce que c'est pas un avantage de pouvoir le faire dans un certain nombre de cas ? De permettre à des gens qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas de milieu ou de relations chez les éditeurs, par exemple, de lancer des projets et de les faire de façon sérieuse.
Ou même si les gens ont des relations chez les éditeurs, c'est peut-être l'opportunité pour l'artiste d'espérer une rémunération supérieure en passant exclusivement par le crowdfunding, peut-être. Il se trouve que moi, c'est pareil, j'ai un crowdfunding à mon actif, je ne suis pas déçu, mais comme toi, c'est quelqu'un que je connaissais, j'avais vu sa production précédente, et je me suis dit, bah voilà, son projet précédent m'enthousiasmait, le suivant a l'air vraiment bien, et il n'y a pas de mauvaise surprise, on est d'accord. Parce que je connais le produit, enfin, voilà, on connaît le bonhomme. Et donc moi, je vois ça un petit peu comme une forme moderne de mécénat. C'est-à-dire que tu vas suivre un artiste qui te plaît, et l'encourager à... Parce que ça pose aussi le problème de la rémunération de l'art. Comment on rémunère l'art? Est-ce que les copyrights, c'est vraiment la bonne solution? Est-ce que le crowdfunding ne permet pas de s'affranchir de ce genre de choses? Est-ce qu'on ne revient pas à un nouveau mécénat? Alors, que dit le professionnel? Je te vois
au cul. Je ne suis pas professionnel du tout, Non, moi j'ai une espèce de fibre artistique un peu vieux jeu qui dit que c'est... Mais là, je vais parler surtout pour le cinéma, mais que c'est vraiment dans la mouise et dans la galère pour se faire un nom qu'on apprend son métier, justement. Pas quand on a, pas quand on se fait confier des millions d'euros ou de dollars dès son premier film. J'étais en train de penser, pour le citer, au premier court-métrage de Vincenzo Natali, qui est un réalisateur américain qui depuis est dans le circuit hollywoodien à fond et qui a réalisé son premier court-métrage avec un budget, je crois, de $400 ou quelque chose comme ça, et qui est un pur chef-d'œuvre. Mais il le dit dans tous les commentaires et dans toutes les interviews, il le dit, c'est comme ça que j'ai appris mon métier, c'est parce que j'ai appris à me débrouiller, c'est-à-dire que j'ai appris à faire mon métier tout seul, certes en ayant bénéficié de savoir-faire, il avait fait une école de cinéma probablement, mais si on m'avait confié, je pense à lui parce qu'il l'a dit quelque part dans une interview, si on m'avait donné le budget qu'on m'a donné pour son film suivant qui était Cube, qui là bénéficiait d'un budget un peu plus conséquent mais pas mirobolant non plus, il a dit si on m'avait donné ce budget-là pour mon premier court-métrage, je me serais planté lamentablement. parce que j'ai appris 90% de mon métier en faisant des choses avec trois bouts de ficelle. Et mais voilà, après ça c'est ma vision à moi. Et d'autre part, dans le cinéma, c'est vrai que c'est très tentant de sécuriser des deals, notamment de distribution à travers le financement participatif. Le problème, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, je ne me suis pas penché sur la question, mais aux États-Unis c'est illégal. Enfin, en tout cas, après, il y a des problèmes de légalité au niveau fédéral, parce que apparemment certains réalisateurs ne savent pas.
C'est un peu compliqué pour moi, c'est un peu
nébuleux, alors j'ai lu ça.
C'est illégal de prévendre des films, tu veux dire, ou c'est illégal de...
C'est illégal, disons que les taxes ne sont pas les mêmes suivant les investisseurs. Et le financement participatif, c'est considéré aux États-Unis comme un investissement privé. De la part des personnes qui mettent de l'argent.
C'est exonéré d'impôts aux États-Unis ?
Et ben justement, c'est là le problème, c'est qu'une compagnie qui fait ce genre d'investissement n'est pas soumise au même impôt que... Alors, bien sûr, si le film demeure inconnu et n'est jamais diffusé...
Ça ne pose pas fondamentalement de problème.
Si le film a un succès incroyable... Là, effectivement, l'État américain va répliquer derrière et dire « Eh oh, s'il vous plaît, vous êtes gentil, mais vous avez combien d'investisseurs ?»
Parce que moi, si je suis exonéré d'impôts, je crowdfund beaucoup plus. Hein.
ça paraît évident. Mais pour recentrer un tout petit peu le débat sur le jeu de rôle...
Oui, très largement.
Oui, mais c'est très intéressant, donc c'est pas un problème. Le jeu de rôle, on a des questions de choix qui sont intéressantes. C'est pour ça que je vais demander à Benoît de nous parler un petit peu du financement qu'il a choisi... pour les chroniques, alors qu'il y a un financement participatif un petit peu différent,
ouais.
Puisque c'est Tipeee, ça fonctionne sur une base qui n'est pas la réunion d'une somme unique, mais sur un soutien récurrent de la part des gens qui participent. Et donc j'aimerais bien savoir d'où ça vient, parce que je crois qu'en plus la plateforme est encore en test.
La plateforme elle est toute neuve, en fait c'est basé sur le principe de Patreon que certains connaissent, qui est une plateforme américaine. Moi j'avais découvert ça tout simplement, comme je disais récemment, j'avais fait une interview de Michael Goldman, le patron de My Major Company, et en fait c'est lui qui a lancé une deuxième plateforme de financement qui est basée sur une deuxième logique, et au cours de l'interview il me dit « mais attends, t'as revu, c'est exactement le genre de projet qu'on soutient avec Tipeee ». Du coup, j'ai creusé un peu la question et effectivement, ça collait bien. Alors, ça colle bien, pourquoi ? Parce qu'un financement participatif de base, c'est un projet fixe qui a un délai de financement. On met un chronomètre et puis à la fin du chrono, si on a la somme, on déclenche l'événement et ensuite, c'est fini. La revue, c'est un peu différent. L'idée, c'est de la faire vivre dans la durée. Donc, ce dont on a besoin, c'est pas une cagnotte à un moment donné et puis ensuite plus rien, démerdez-vous. Puisque du coup, cette cagnotte, elle va se dilapider, peut-être un peu trop vite, et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. L'avantage avec Tipeee, c'est que ce qu'on demande aux financeurs, c'est pas de donner à un moment une somme potentiellement intéressante, mais plutôt de donner une somme plus faible, mais de la donner de manière récurrente. C'est-à-dire, nous, on est un mensuel, donc on a pris la logique du mois, c'est-à-dire que tous les mois, les gens s'engagent à nous parrainer d'une somme qu'ils vont choisir et qui aura une contrepartie dans la même logique que les financements classiques.
Ça représente quelle somme à peu près pour se faire une...
Pour l'instant, on a des financeurs qui nous donnent entre 1 et 30 euros. Et donc actuellement, on monte à 100 euros à peu près par mois. Voilà, donc c'est pas grand-chose, mais n'empêche que ça nous permet d'avoir des sous, puisque de base, la revue fonctionnant dans un principe totalement bénévole sur tous les aspects, que ce soit les illustrateurs, la maquette, l'écriture d'articles, etc., la relecture, personne touche rien, mais du coup, personne ne met non plus d'argent. Donc là, l'idée, c'est qu'au moins, on a une cagnotte de 80 euros, parce qu'effectivement, après, il y a encore des sous qui partent dans la structure qui échappe à tout ça. Je crois que c'est 8% ou 9% le pourcentage pris par le site, mais c'est l'équivalent d'à peu près toutes les plateformes de jeu. Et du coup, cette petite cagnotte, ça nous permet de développer un certain nombre de petits projets. Alors, des tout petits projets, mais il n'empêche qu'on n'aurait pas pu les faire sans ça. Donc, par exemple, au mois d'octobre-novembre, là, on a fait pas mal de conventions. Ça nous a aidé à déjà installer un stand, avoir un petit peu un truc qui a de la gueule. à nous aider aussi un petit peu pour les déplacements, même si on a réussi à se faire accueillir de manière très généreuse par un certain nombre d'événements, tout en nous, de notre côté, en parlant d'eux dans la revue, donc on fait des échanges de bons procédés. Et puis, la version papier, en fait, de la revue, c'était un peu, quelque part, comme je l'explique dans le prochain article sur Tipeee du prochain numéro, c'était un peu le but. Quand j'ai créé la revue à la base, il y avait derrière l'idée que ce serait cool, c'est un peu un rêve, quoi, mais d'avoir une version papier, le vieux fantasme du lecteur de Casus Belli d'autrefois, et qui ne voit plus dans le kiosque à journaux son journal préféré. Donc, à un moment donné, je m'étais dit, tiens, je vais essayer de faire à mon échelle, à ma façon, de manière la plus petite possible, mais qui soit fonctionnelle, une revue qui parle de jeux de rôle. Donc à la base, c'était une revue plutôt associative qui parlait des productions de l'association, la Guilde d'Altarite, qui est un collectif d'écriture pas très dynamique à la base, mais du coup, c'était aussi l'envie de le redynamiser. Et puis, il se trouve que très très vite, avec Julien notamment, et puis d'autres participants, ça s'est ouvert à de nombreux contributeurs, et ça a pris, dès le numéro 1, en fait, la forme qu'on connaît encore aujourd'hui d'une revue ouverte sur tous les profils de rôlistes qu'on peut avoir, quoi.
Ouais, et donc moi, il y a une question que je me pose,
oui.
C'est, t'as choisi Tipeee, donc, oui. Pour les chroniques, ce qui t'a bien justifié le sujet, ça correspond très bien. En parallèle, tu développes Fils des siècles, donc ouais. Ton jeu de rôle, et alors pourquoi est-ce que Fils des siècles, tu ne l'as pas introduit en financement participatif ?
Alors, parce qu'en fait, j'ai eu un peu la même réflexion...
La question piège
que Julien Morgan évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, il faut avoir un certain professionnalisme pour proposer un projet sur un financement participatif. Le jeu de rôle Le Fils des siècles que je développe, c'est un jeu que j'ai en gestation en moi depuis, une dizaine d'années, mais que je développe très sérieusement depuis 2 ans et demi maintenant. Mais en 2 ans et demi d'écriture, je suis tout à fait conscient que je n'ai pas un projet présentable dans le cadre d'un financement participatif, et loin de là. Parce que pour moi, il faut un projet qui est en cours de financement, c'est un projet qui est déjà écrit. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a besoin d'avoir juste les sous pour finaliser, genre on envoie à l'imprimeur, quoi. Mais il faut, ou au pire, qu'il n'y ait plus que les chèques à faire pour les illustrateurs pour qu'ils finalisent des trucs, que tout soit déjà dans les tuyaux. Là, on n'en est pas là. Je suis dans une phase de ce que j'appelle la bêta ouverte, c'est-à-dire que le jeu, il tourne, mais il est encore complètement en chantier. Donc, je le fais découvrir aux joueurs qui le souhaitent pour pouvoir avoir un maximum de retours et continuer à le travailler, continuer à l'améliorer, à boucher les trous qu'on me dévoile au fur et à mesure. Et j'en suis très reconnaissant aux testeurs qui participent, quoi.
Était extrêmement sérieux de ce point de vue-là, je dirais, puisque moi, j'ai vu quand même, pour suivre pas mal de Kickstarter, de financement participatif en général, j'en ai vu beaucoup qui présentent des projets qui sont presque pas engagés.
Qui ne sont même pas écrits.
Qui ne sont pas écrits.
oui, mais je ne vais pas faire moi-même ce que je reproche aux autres, en fait.
Oui. très bien. Moi, j'ai des... Je vais peut-être pas citer les noms, parce que le produit final est quand même relativement bon. Mais j'ai été un peu échaudé sur un financement sur Ulule récent, où j'ai vu le projet présenté, prendre quand même un peu de retard, pas beaucoup de retard, mais un peu de retard, et surtout voir l'auteur reproposer derrière d'autres projets, d'autres Kickstarter.
Oui, avant qu'il soit...
Avant que le projet soit finalisé. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'édition, si c'est un problème d'impression, si c'est un problème d'illustration, j'en sais rien.
En tout cas, un problème de communication avec ses souscripteurs.
Peut-être, mais je me suis dit, et j'ai eu cette réflexion, et j'ai eu un certain nombre de gens qui m'ont fait les mêmes réflexions, un projet qu'on soutient, dont on ne voit pas la couleur, et on voit l'auteur proposer un deuxième projet derrière, ça ne donne pas du tout envie de le soutenir. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ta démarche, qui est de dire... je proposerai peut-être mon projet un jour, enfin je sais pas si tu veux le proposer, tu vas peut-être nous le dire, mais en finançant et quand il sera prêt, quoi.
En fait, mon projet, c'est vraiment plutôt de trouver un éditeur, puisque je suis tout à fait conscient moi-même de ne pas être professionnel de tout un tas de métiers nécessaires à la réalisation d'un livre. Et autant l'écriture, au fur et à mesure que je l'avance, même je découvre des tas de choses, mais ça avance, et je sais que je peux en venir à bout, du fait que j'ai déjà réalisé des jeux de rôle amateurs avant, bon, c'est pas la même... mais voilà, je sais que je vais y arriver. Par contre, réaliser un ouvrage, le diffuser en librairie, faire tout le matériel qui va aller autour, trouver les bons prestataires, etc. Enfin, c'est beaucoup de boulot. Donc d'une part, peut-être je pourrais le faire parce que si je creuse, peut-être, je sais pas, je pourrais découvrir le boulot au fur et à mesure et arriver à le faire. Mais déjà, ça m'intéresse moins que d'écrire et j'aimerais mieux utiliser ce temps-là moi-même à continuer à écrire, par exemple, un supplément pour le jeu, continuer à développer quelque chose ou écrire un autre jeu si celui-là est terminé, mais ou partir sur d'autres projets, peu importe. Mais quelque part, c'est pas l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est moins en lien avec la création elle-même, et je sais qu'il y a des très bons professionnels qui peuvent faire un super boulot, et je préférais trouver un accord avec des gens qui ont envie de participer au projet, quoi.
Ouais, Xavier, tu avais quelque chose à dire peut-être sur le côté jeu amateur, jeu professionnel, et oui. La différence entre les deux.
Il a émis un grognement.
Oui, alors en fait, moi j'ai découvert en venant travailler sur Paris il y a 3-4 ans, je me suis remis sérieusement au jeu de rôle, je me suis plongé dans le jeu indie, j'ai découvert plein de trucs formidables, et j'ai découvert aussi, au travers de Sombre et de Joanne Sipion, qui m'a expliqué que en fait, il y avait un véritable plaisir à écrire quelque chose, à le réécrire, à le travailler, et donc j'ai découvert avec les scénarios de Sombre que je pouvais faire un scénario, le faire jouer en convention, le faire jouer, rejouer, un petit peu dans la démarche qu'a Joanne, et que, en fait, j'ai découvert que l'écriture, ça n'est pas de l'écriture, c'est de la réécriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je retravaille ce que j'ai fait, je le teste, je me demande dans quelle mesure, voilà, est-ce que, quand on a des échéances, telles que, alors que ce soit le crowdfunding, ou des échéances posé par un éditeur, on est capable de faire ce travail de réécriture, quoi. Joanne Sipion nous dit, voilà, moi, quand je sors un scénario, je vais jouer 60 ou 70 fois. Bon, bah, quel professionnel peut se permettre de faire ça? Alors, évidemment, quand il nous sort un scénario, il nous dit tout sur tout.
Non, mais Joanne, c'est un extraterrestre.
Mais je trouve ça formidable. Et je me dis, en même temps, pour moi, c'est la beauté de l'écriture indépendante. C'est-à-dire que t'as quelques malades que t'arrives à fédérer autour de toi, qui sont fans de ton truc et qui t'aident à développer ce que t'as à développer, qui te font des retours, qui s'enflamment en bien en mal. Et dès qu'on rentre dans des échéances de temps, que ce soit par le crowdfunding ou par le biais d'un éditeur, bon bah ça, forcément, voilà. D'un autre côté, si on s'arrête jamais, eh bien on n'a jamais de produit fini.
C'est le danger, c'est vrai, de rester sur l'écriture. C'est pour ça, enfin, dans mon projet, il y avait, ben, déjà avec les chroniques d'Altarid, il y a cette idée de deadline continue. C'est tous les mois, il faut sortir un numéro. Même s'il n'est pas parfait, tant pis, on a tout à fait conscience que tous les participants auraient pu faire mieux, en fait, moi y compris. Mais c'est le fun aussi de se dire, bon, ben, y a une deadline, on s'y tient, on avance, et on garde une expérience aussi de la... De la fois précédente, et finalement on s'améliore, et sans doute que le numéro 31 il sera meilleur que le numéro 1, enfin, j'espère.
Oui, mais le numéro 1, quel collector.
On peut dire ça. D'ailleurs, on parle d'écriture, d'indépendance, on parle d'éditeur. Là, on a quand même la chance d'avoir Morgane qui a une activité d'éditeur au sein de Voyelles et qui a une activité d'auteur indépendant aussi, hein, qui gagne même un peu d'argent,
oui,
je crois.
Faut pas le dire. Mais on boit du très bon vin, c'est pas pour rien.
Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, de ce côté indépendance, liberté d'écriture, liberté de passer du temps sur un.
Je pense qu'en fait, Xavier a très bien résumé les choses, c'est-à-dire que les deux sont intéressants. C'est vrai que dans l'écriture indépendante, le fait de pouvoir investir le temps qu'on souhaite dans un projet parce que. Une version finie ne plaît pas ou qu'on pense qu'on n'a pas exploré toutes les possibilités, là je parle de manière générale, que ce soit pour un livre ou pour un jeu de rôle, et plus particulièrement pour un jeu de rôle, c'est intéressant. Et en même temps, effectivement, l'éditeur, il est là pour dire aussi, écoute, arrête de couper les cheveux en quatre, c'est très bien, ce sera jamais parfait, c'est normal, tu es l'auteur, pour toi ce ne sera jamais parfait. Mais d'un point de vue externe et professionnel, c'est bon. Stop, maintenant, tu laisses tomber. Donc les deux sont bien. C'est-à-dire que ça fait du bien d'avoir un éditeur derrière soi qui dit non, maintenant, là, c'est bon, le projet est terminé, le projet est prêt à sortir. Maintenant, tu lâche ça tout de suite. Et c'est très bien à côté de pouvoir aussi, sur des projets qui sont un peu plus... qui sont un peu différents ou qui ne rentrent pas dans les cases, de pouvoir y passer le temps qu'on veut et de pouvoir le mener de la manière qu'on veut aussi. Les deux se font très bien en parallèle, puisque moi je fais les deux en parallèle et pour l'instant ça va, j'ai pas eu trop de problèmes.
D'ailleurs, je vais te provoquer un peu sur le sujet, hein, puisque moi je vois que t'as quand même un bouquin qui vient de sortir.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Qui s'appelle Braise of the Dead, hein, avec la superbe prononciation. Je ne sais pas le prononcer à la bretonne, mais qui nous parle de zombies en Bretagne. Celui-là, il est sorti, celui-là, il est édité. Et puis moi, je sais que j'ai lu, il y a un certain temps, un roman de space opéra qui s'appelle Mendung. Enfin, c'est le nom de la série ou c'est le nom du roman ?
C'est le nom du roman.
C'est le nom du roman.
La série s'appelle Les étoiles regardent aussi, et c'est la première partie, effectivement.
Et la deuxième partie, elle a quoi par rapport à l'annonce, un an de retard ?
Au moins.
Ouais, voilà.
Au bas mot. C'est ça aussi les aléas de l'écriture indépendante, c'est qu'on se laisse happer par d'autres projets qu'il faut finaliser. Et puis,
voilà, donc je pense que c'est une bonne illustration. Donc on va refaire, pour le crowdfunding, je pense qu'on a bien fait le tour. On va refaire un tout petit tour de table pour parler des projets et citer le nom des projets des gens présents. Donc Benoît, c'est sur Tipeee, c'est les chroniques d'Altaride, on trouve les informations où ?
Alors, sur Tipeee, on nous trouve assez vite, puisqu'il n'y a pas non plus encore énormément de projets. Si vous tapez Chronique d'Altaride, vous y êtes. Voilà, et donc on a des contreparties qui vous permettent... en fait, la plus sympa, allez-y, foncez, c'est 30 euros. Vous avez un numéro gratuit qui vous est envoyé, enfin gratuit du coup, qui est autofinancé. Alors,
Tipeee, par contre, je crois que c'est avec deux E à la fin.
Alors, Tipeee, il y a trois E. Voilà, c'est vachement...
C'est pas comme un Tipeee.
Voilà, c'est pas comme un Tipeee, c'est encore plus de E.
Bah,
en fait, c'est un type... I, et en anglais, il y a un jeu de mots avec le pour boire.
Je mettrai le pourboire
électronique.
Je mettrai l'adresse sur le
lien son.
Sur le son. Non, mais sur le site où on trouvera le podcast, voyons. Mes crayons. Sophie.
Donc le projet, c'est sur Kiss Kiss Bang Bang, donc Cole Porter, la tournée des compteurs. Donc voilà, vous cherchez un moteur de recherche du site.
Très bien.
Pour soutenir le spectacle vivant.
Voilà.
Morgane, pas de crowdfunding en ce moment ?
Pas de crowdfunding en cours.
Des prévus ?
Non.
Non ?
Ah, pas de... Non.
Très bien.
Mais tu es Xavier, alors ?
Ben, Xavier, je sais que non.
Moi,
est-ce que tu as vu, alors, on va parler pour nous, est-ce que toi, tu participes actuellement à des crowdfunding, Xavier ?
Alors, moi, je soutiens actuellement la création d'un Adventure Path qui n'est pas de Paizo, mais qui est de Fire Mountain Games.
Alors, on va peut-être resituer un peu. Adventure Path, c'est pour les...
C'est pour un jeu de rôle qui s'appelle Pathfinder, qui est très connu, qui est un des clones de Donjons et Dragons. Et donc, leur première aventure s'appelait Way of the Wicked, où on joue des infâmes salauds qui ont essayé de prendre le pouvoir dans un pays de paladins.
C'est faux, c'est un jeu où on meurt.
C'est parce qu'on a des MJ sadiques qu'on meurt, c'est pas parce que le jeu est mal fait. Et le deuxième que je soutiens, c'est des nains qui vont reconquérir un royaume perdu dans les tréfonds et affronter les elfes noirs. Et c'est... Voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait l'auteur dont j'ai oublié le nom, qui a monté Fire Mountain Games.
On le retrouvera. Voilà. Très bien. Mais pour ma part, le dernier crowdfunding auquel j'ai participé, c'est celui de Wraith, anniversaire des 20 ans, qui est sorti par Onyx Pass, donc qui est la compagnie qui a repris ce que faisait White Wolf. Donc c'est un Kickstarter que j'attendais depuis très longtemps. Depuis qu'ils ont sorti Vampire... édition 20 ans d'anniversaire, c'est un des jeux d'ailleurs dont j'ai pas été déçu du tout, j'ai beaucoup apprécié la qualité, et qui pour moi a joué au départ sur de la nostalgie de vieux releases qui maintenant avaient beaucoup d'argent, ou en tout cas suffisamment pour financer ce projet, par rapport à l'époque où ils étaient étudiants, hein, parce que les releases avaient beaucoup d'argent, à part le président de My Major Company que Benoît a pu interviewer, je sais pas s'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns quand même. Et c'est pour moi, ça a été le point de départ de l'intérêt pour les crowdfunding en général. Et j'ai l'impression que le jeu de rôle renaît un peu de ses cendres, ou en tout cas de sa pratique fermée dans des petits groupes qui ne se parlaient pas ou peu, grâce à ce biais-là. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Donc, Race, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un jeu que j'ai adoré quand je l'ai lu, que j'ai fait jouer et que j'ai joué quelques fois, mais de façon trop rare. Et le voir ressortir, ça joue à la fois sur la nostalgie, et ce qui m'intéresse, c'est aussi que l'auteur du jeu en profite pour le remettre à jour. Alors ça va rester très familier, mais il en profite pour régler des problèmes qui faisaient que le jeu était parfois difficilement jouable. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. On va passer un petit peu à la suite. On a parlé des projets de crowdfunding. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est un petit peu si vous avez des projets actuels dont vous avez envie de parler, des choses que vous faites, des choses que vous allez développer. On va commencer par Xavier, qui n'a pas beaucoup parlé dans le crowdfunding et qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait à Nantes.
Alors oui, à Nantes, donc moi en fait je défends le jeu en association et je défends l'idée que ce qui nuit à la propagation du jeu de rôle, c'est qu'on joue sur nos parties privées, nos campagnes privées et qu'on n'ouvre pas forcément ou difficilement nos tables aux nouveaux joueurs. Donc j'essaie partout où je vais de rentrer dans des associations et de pousser les associations à faire de l'initiation, à faire jouer et à ouvrir les tables. Et donc il y a un petit peu plus d'un an, l'association que je soutiens à Nantes, qui s'appelle l'association ARES, qui est une association d'étudiants. On peut trouver leur site, si on tape ARES Nantes sur Google, on devrait les trouver. Et donc ils m'ont demandé, Xavier, toi qui es un de nos grands anciens, comment est-ce qu'on devient maître de jeu? Comment est-ce qu'on amène les joueurs à devenir maître de jeu? Et donc on a eu l'idée de se réunir une fois par mois et de faire ce que l'on appelait le café MJ, c'est-à-dire le café maître de jeu au départ, pour que les gens viennent, pose des questions aux anciens, que les anciens entre eux échangent sur leurs pratiques et qu'on voit et qu'on fasse profiter tout le monde de nos lectures, que ce soit les chroniques d'Altaïd, que ce soit la découverte de Joanne Scipion en ce qui me concerne, ou peut-être de la cellule si on parle d'autres podcasts.
Ah oui,
et donc je prends mon bâton de pèlerin et je profite. On se réunit pendant ces cafés MJ avec tous les gens qui tiennent des tables à l'association ARES, on en parle, et les joueurs sont les bienvenus. Et on s'est aperçu que si on disait café maître de jeu, eh bien ça mettait une barrière et qu'il fallait en fait ouvrir ce terme et appeler ça café jeu de rôle, pour que les joueurs comme les futurs maîtres de jeu ne viennent pas nous parler de notre partie, parce que quand on discute avec un rôliste, il nous raconte comment son mage niveau 20 a réussi à poutrer Orcus d'une boule de feu mémorable, et on s'en fout. Nous, ce qu'on veut dans les cafés jeux de rôle, c'est parler de ce qu'on fait, de ce qui marche à nos tables, de pourquoi ça marche, des trucs qu'on a, de si on fait un scénario enquête, qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi la dernière fois ça a marché, ça n'a pas marché, tout ça. Et du coup, on essaie de se réunir une fois par mois. Donc, on fait la pub sur le forum, on fait la pub sur le compte Facebook de l'association. Et tout le monde est bienvenu si vous passez à Nantes. La porte est grande ouverte. Ça se passe à la Maison des Jeux, qui est un collectif d'associations qui a de beaux locaux sur l'île Beaulieu à Nantes et qui nous accueille.
Et le prochain, c'est pour quand ?
Alors, comme je suis un gros boulet et que j'ai la mémoire immédiate du poisson rouge, j'ai déjà oublié.
Mais
merci,
ce sera marqué sur le
mais
site.
Mais ce sera marqué sur le site,
oui, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Tu parlais de podcast, tu parlais de la cellule. Il faut aussi saluer Radio Rolliste et notamment le petit frère de Radio Rolliste qui s'appelle Café Rolliste, justement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter.
Eh bien, je ne connais pas, mais je découvrirai avec plaisir.
Je t'encourage.
Si tu m'envoies le lien.
Oui, je t'encourage. Merci, ce sont des entretiens qui durent à peu près une demi-heure et qui sont très intéressants. Notamment, il y en a toute une série qui a été réalisée aux Utopiales de Nantes récemment. Donc, évidemment, je mettrai le lien, vous verrez ça, c'est très intéressant.
Je m'inquiète d'ailleurs, puisque tu en parles un petit peu pour Radio Rolliste, que je suivais aussi avec beaucoup d'intérêt et d'attention, et ça fait quelques temps qu'on ne les entend plus trop. J'espère qu'ils vont bien et qu'ils pourront reprendre les micros et nous abreuver de...
Radio Rolliste, si vous nous entendez,
revenez, voilà, revenez des morts.
On veut des jeux
on
bizarres.
On vous aime aussi. Ouais.
On veut des jeux bizarres de Callisto. Ok, je te remercie beaucoup. Morgane, t'as quelque chose à nous annoncer, à nous parler? Sophie, peut-être? Est-ce que tu donnes des... Tu es conteuse? Est-ce que tu donnes des spectacles prochainement en dehors de cette...
Est-ce que tu donnes des cours de conte? Est-ce que tu apprends aux gens à conter? Est-ce que tu...
Alors, oui, j'anime des ateliers où les gens peuvent s'essayer un petit peu au travail de conteur. On n'apprend pas vraiment. S'il y avait une recette, c'est comme pour beaucoup de choses, ça se saurait. Par contre, ce que je propose, qui est un peu en lien avec le jeu de rôle, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment une rôliste invétérée depuis 15 ans, tout ça, c'est de proposer des contes... Alors, je présente ça comme des contes d'arc, comme ça fait un peu une sélection, j'ai pas des petits de 5 ans qui viennent, à l'occasion des conventions auxquelles on peut participer avec les chroniques. Donc c'est une proposition que j'ai pu faire en début d'année, là, quand on a fait un peu la tournée des conventions, de proposer ce petit temps de contes un peu d'arc pour les adultes, justement, en soirée. Et c'est un format qui marche bien. ma foi, parce que c'est pas forcément des contes très connus par le grand public. Le côté dark, bah, ça peut attirer un peu les rôlistes aussi, qui se disent, ouais, voyons, après Cthulhu, vas-y, fais-moi peur.
Et ça marche.
Et il y en a certains qui n'étaient pas super fiers quand même à l'arrivée, donc je suis assez contente de faire connaître ce patrimoine qui n'est pas connu du grand public, et encore moins des rôlistes, et c'est dommage parce que il y a vraiment des jeux de rôle qui puisent dans les contes. Enfin, je ne connais pas le jeu de rôle suffisamment bien, mais j'imagine qu'il y a des kilos de scénarios, de morceaux de contes qui se retrouvent dans les jeux de rôle. Donc.
Tu te dis non-release depuis 15 ans, mais moi, pour t'avoir vu autour d'une table de jeu, je me souviens de moments absolument exceptionnels, bah, notamment de roleplay, non sûrement en rapport avec ton côté de conteuse, mais qui sont mémorables. Notamment, je me souviens du mime d'un scarabée qui était extraordinaire.
Qui, je sais plus ce qu'il faisait.
Descendait des marches, je crois.
Oui, et puis, c'est pas facile pour un scarabée de descendre une marche. C'est pas facile du tout.
Ah, vraiment, c'est un moment que je n'oublierai pas.
On va demander le mime du scarabée qui descend l'escalier.
Non,
en podcast, ça rend moins.
Après le podcast.
Benoît, je pense que toi, t'as bien fait le tour de tout ce que tu voulais dire. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ?
Pas particulièrement. Moi, mon projet, comme vous l'avez compris, c'est continuer les revues Chroniques d'Altaride et puis continuer à écrire mon jeu de rôle Fils des siècles. Donc, je vous invite à découvrir sur le site du même nom. Et qui est en bêta ouvert, donc le PDF est dispo sur le site, donc on peut télécharger les règles et puis tester, et moi je suis preneur des commentaires qu'on peut avoir dessus, et puis sinon je propose aussi la version papier pour ceux qui veulent avoir le vrai bouquin, même si c'est pour l'instant qu'une version en cours de travail, quoi.
Ok, merci Morgan. Non, et rien à dire.
Si, non, Morgan, oui, tout le monde sur le ton,
oui,
vers soi,
allez, tu nous as promis un truc là.
Plein de choses. Donc le 15 décembre, lundi prochain, sortie de l'anthologie d'abord à voile et à vapeur chez Voyelle. Donc anthologie steampunk LGBT, ce qui est plutôt rigolo comme association, avec des auteurs connus, des auteurs un peu moins connus, une préface d'Arthur Morgan. Donc un chouette projet qui était très très fun à mener avec Isabelle Venta. Et le projet Radius, maintenant je peux dire le nom, puisqu'en théorie le podcast sera diffusé après la parution.
Oui, bien sûr.
Le projet Radius, donc chez Walrus e-books, qui est une maison, une des premières maisons d'édition française 100% numérique, pure player sur internet, et qui a lancé un projet, une expérience en fait complètement folle, une expérience collaborative entre 6 auteurs. Donc moi-même, j'ai essayé de ne pas en oublier: Michael Rock, Otsenga, Jacques Fuentealba, Ninja Munsi, Vincent Corlex et Stéphane De Sienne, pour écrire en fait un roman à 7 mains, c'est-à-dire un roman qui sera mené un petit peu comme un jeu de rôle, puisque toutes les semaines on aura des bribes d'informations qui nous permettront de faire évoluer nos personnages. Donc le 15 décembre, quand le projet paraîtra, il y aura déjà une trame, un background en fait assez conséquent des personnages et de quelques péripéties qui leur sont déjà arrivées. Et après, pendant un an, on s'évertuera à écrire les aventures de nos personnages respectifs, avec les indications d'un grand maître de jeu qui tire les ficelles autour d'un mystère qui affecte la planète entière. Voilà, donc chez Walrus e-books, c'est sur radius-experience.com.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tout ce dont je voulais qu'on parle ce soir.
Et vous, Maître Poire ?
Quels sont vos projets ?
On allait t'oublier.
Ah zut, je suis... Quels sont mes projets ? Mes projets sont assez nombreux actuellement. Donc évidemment, il y a les Chroniques d'Altaride, dans lesquelles je compte continuer à publier souvent des scénarios, des articles.
On attend l'épisode 4 de la campagne Eclipse Phase, avec de plus en plus de fans qui piétine d'impatience.
Oui, ça j'en suis pas bien sûr, mais j'en ai au moins rencontré un.
J'en ai croisé pas mal, hein. ça continue à monter.
Bref, ouais. Peu importe. Oui, l'épisode 4 devrait arriver très prochainement, suivi de l'épisode 5 qui sera le dernier, histoire de boucler un peu ce côté-là. Donc ça, c'est le premier projet dans le cadre du jeu de rôle. Le deuxième projet dans le cadre du jeu de rôle, c'est un jeu sur lequel je travaille aussi, qu'on est beaucoup, beaucoup moins avancé que Fils des siècles, notamment dans sa forme générale, qui est beaucoup basée actuellement sur des idées et quelques petits articles que j'ai commencé à publier, qui s'appelle Divergence, qui est un jeu de science-fiction, un jeu d'exploration, à la fois d'exploration d'un monde qu'on est en train de coloniser, et d'exploration de l'identité des personnages. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le moment, mais il y a un certain nombre de choses. On va commencer bientôt à le tester, normalement. Donc il en arrive à un stade où on va pouvoir le tester. Voilà. Donc voilà pour mes projets. Et puis évidemment, le projet principal en avant ce soir, c'est le podcast. Essayer de faire un podcast régulier sur le modèle des chroniques, c'est-à-dire idéalement mensuel, où on pourra revenir sur ce qu'on a fait dans les chroniques et sur un certain nombre de sujets, comme on l'a vu ce soir. Je remercie d'ailleurs énormément Benoît, Sophie, Xavier et Morgane d'être présents pour m'aider de ce point de vue-là, qui sont évidemment les bienvenus pour revenir n'importe quand. Et on a aussi un certain nombre d'autres gens qui sont intéressés pour participer. Il va falloir apprendre le côté technique, notamment, pour faire ça au mieux, et notamment le lien avec des gens qui ne seront éventuellement pas présents physiquement, mais qui pourront participer à distance. Voilà. Il y a une dernière chose que je voudrais qu'on aborde, qui me tient assez à cœur. Je sais qu'il y en a qui trépignent un peu d'impatience et d'autres qui regrettent beaucoup ce moment-là et qui en ont peur. J'aimerais qu'on passe un petit tour de table pour parler de nos récents coups de cœur, coups de gueule à propos du jeu de rôle, mais aussi en général. Donc on va passer la parole à chacun d'entre nous qui va pouvoir nous parler un petit peu de ce qui lui tient à cœur en ce moment. Alors on va commencer par Benoît, qui est en face de moi.
Oula. En général, je saurais pas trop dire là comme ça à chaud, donc je vais plutôt rester dans le domaine du jeu de rôle. Moi, le coup de cœur, je vais dire que c'est Within. C'est un jeu que j'ai pu découvrir avec le précédent numéro des Chroniques d'Altaride, où on a eu une interview de Benoît Attineau, l'auteur du jeu. Et hier, en fait, tout simplement, j'étais au Cavalier dans Paris pour la soirée de lancement du jeu. Et j'ai pu voir un peu la bête. Et franchement, j'ai été bluffé par la qualité du produit. C'est un magnifique livre de jeu de rôle. Et il fait envie, quoi. Enfin, c'est non seulement un bon jeu, je pense, mais en plus, un bel objet. Et en gros, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un collector, alors que c'était le livre normal. Et je trouve assez admirable d'avoir réussi ce boulot-là. Donc après, voilà, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas encore lu, mais je trouve que c'est sympa que dans le milieu, on arrive quand même à combiner l'aspect technique à l'aspect juste écriture, quoi.
Ok, merci. Et Sophie, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler ?
Alors, moi, ce dont je voudrais parler, c'est le troisième tome de la série de Marion Montaigne, qui est une auteure de BD, Tu mourras moins bête, c'est ça la série qui est Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, qui est un blog au départ, où elle prend des idées reçues à travers le professeur Moustache. Et donc c'est le professeur Moustache qui répond au courrier des lecteurs qui dit, voilà, professeur, comment ça se fait que dans les films d'action, il y a toujours le héros qui saute et qui ne se fracasse pas par terre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Donc elle prend un peu au pied de la lettre ce genre de choses, d'incohérences ou d'idées reçues. Et elle les décortique avec pas mal d'humour. Elle avait fait aussi un livre sur une BD avec les Pinson Charlot, qui sont des sociologues, sur le Riche, pourquoi pas vous, ou pourquoi pas toi, je ne sais pas si elle tutoie, où elle décortique justement avec eux tous les mécanismes des sphères, des hautes sphères de la société. Il y a beaucoup d'humour et c'est quand même assez, il y a quand même un fond assez, assez documenté. Donc je trouve que c'est un bon travail de vulgarisation, à dire, décidément.
Le vendredi soir est particulièrement actif en train. Xavier.
Alors moi, au risque d'être super pas original, j'ai commencé ma vie de rôliste avec la petite boîte rouge de Donjons et Dragons. Je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit, et vous ne l'ignorez pas si vous êtes rôliste, on nous sort une 5e édition récemment. Je me suis donc, j'ai complété ma collection, et bien je suis très très agréablement surpris par cette édition. Pas parce que le système de résolution serait particulièrement original, mais parce qu'ils introduisent un petit peu de théorie moderne de jeu de rôle, avec notamment tout ce qui permet de créer le background, c'est-à-dire l'environnement de vie des personnages, et qui propose un véritable moteur à de l'histoire et à de la narration. Et donc, on pousse peut-être la porte pour Donjons et Dragons, de ce qui va nous permettre de sortir du Donjon et Dragon, de sortir du porte-monstre trésor et de raconter des vraies histoires, puisque dans la base, on a de quoi impliquer les personnages avec des histoires qui sont riches. Voilà, donc je teste ça actuellement, notamment avec Julien, de temps en temps les jeudis soirs, et je m'éclate, et j'espère que ça va durer encore un petit peu. Merci Wizard of the Coast sur ce coup-là.
Alors, est-ce qu'on doit choisir entre un coup de...
Tu peux faire les deux.
Coup de gueule.
Si tu reviens souvent, tu auras droit à plusieurs coups de cœur.
Ça me rassure parce que non, des coups de gueule, j'en fais assez comme ça sur Facebook et un petit peu partout. D'ailleurs, mon dernier coup de gueule a été partagé plus massivement que je me serais attendu. Je sais pas si tu l'as lu, le statut sur Avatar.
On aura peut-être droit à un tour de coup de gueule, hein, parce que j'ai mon coup de gueule à faire. Moi.
On va faire un deuxième tour coup de gueule.
Mais voilà, ça m'avait surpris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hey, ton statut est viral. Non, moi je suis pas viral, moi en général on me déteste juste. Non, donc je vais juste commencer par un coup de cœur parce qu'on a, en fait on a très très peu parlé de musique. Donc gros. Coup de cœur, moi, de cette année 2014 en musique, c'est à mon avis quelqu'un qui n'est pas totalement inconnu des rôlistes parce que ce sont des milieux qui sont très très proches, mais Tuomas Holopainen, donc, qui est le claviériste de Nightwish, groupe de métal symphonique un peu par excellence, a sorti un album solo qui s'appelle The Life and Times of Scrooge, donc, qui est une adaptation de La Jeunesse de Picsou en un album de musique avec... les moyens dont il dispose, c'est-à-dire London Symphony Orchestra, le chœur qui va avec, et tout ce qu'il faut, et le génie de Tuomas quand même en termes de composition. Donc c'est un album qui est totalement à la fois décalé et puis très, très mélodieux, rien de métal, hein, c'est principalement du symphonique. Mais c'est une révélation, enfin un petit bijou comme on en voit trop rarement. Ça s'adapte merveilleusement bien à l'écriture. Ça s'adapte merveilleusement bien à tout un tas d'autres activités plus privées. Et voilà. C'était la partie
positive.
La partie musique du podcast.
Mais écoute, le coup de cœur. Ça tombe bien parce que partie musique, moi, puisque tu me lances sur le sujet, je vais parler d'un groupe français. Qui a été un coup de cœur en concert assez extraordinaire il y a quelques mois de ça, qui s'appelle La Maison Tellier, qui a sorti un live d'ailleurs qui reprend leur concert sur leur dernier album. Alors leur dernier album, enfin le live s'appelle Beauté Partout, l'album s'appelle Beauté pour tous, et ça a été, je les ai vus en concert à Paris, dans une salle qui est de taille relativement modeste, et je ne rêve que d'une chose, c'est de retourner les voir tellement c'était bien. Donc je conseille vraiment cet album à tout le monde. C'est du rock français, on peut dire ça de façon générale, c'est extraordinaire. Et bah, il se trouve, puisqu'on parlait de Donjons et Dragons 5, il y a une de leurs chansons que je me mets quasiment systématiquement sur le chemin pour me mettre dans l'ambiance quand on joue le jeudi soir. Donc voilà, un très très grand bonheur et une très très belle découverte. Voilà. Donc on a parlé des coups de gueule. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin, mais je crois que Xavier trépigne.
Ah oui. Moi je profite de ce premier coup de gueule pour dire, Française, Français, arrêtez de gueuler. Si le fait de gueuler faisait avancer quoi que ce soit, je vous promets qu'il y a longtemps que la France dominerait le monde. Il se trouve que la France ne domine pas, enfin on est pas mal classé, mais bon, on n'est pas dans le trio de tête. Et peut-être que si on gueulait moins et que si on agissait plus, on pourrait avancer et moins passer pour des connards auprès de pas mal de monde. Donc luttez contre votre naturel, chers Français, et arrêtez de gueuler. Pensez à moi, quand vous vous apprêtez à gueuler, dites « Ou non, le podcast des chroniques d'Altaril, c'est vrai, gueuler c'est le mal ».
Saint Xavier, sois à mes côtés.
Attention, j'aime beaucoup gueuler, hein. Je suis un bon gaulois moi-même, mais je prêche pour une autre paroisse.
La preuve. Très bien.
Du coup, tu nous coupes l'herbe sous le pied, là, pour...
Mais il fallait pas me lancer en premier, voilà. Lâchez-vous, il fallait déchaîner.
Alors le mien, c'est Le Hobbit, en fait, l'adaptation au cinéma du roman de Tolkien. Il se trouve qu'en ce moment, on a la sortie du troisième volet d'une trilogie fleuve... qui n'en finit pas de ressembler à rien. Et du coup, bah, personnellement, je pense comme une nouvelle fois boycotter le film. Et je trouve ça super dommage, en fait, parce que Tolkien, on en rêve pour beaucoup de rôlistes depuis qu'on est môme. Et autant j'ai trouvé l'adaptation du Seigneur des Anneaux assez sympa, assez propre, pas mal, ouais. à part quelques tout petits morceaux, mais globalement plutôt chouette. Autant l'adaptation du Hobbit, je trouve ça lamentable, ça ressemble absolument à rien. Et ça me fait mal au cœur de voir une belle œuvre massacrée comme ça. Bon, après, c'est à nuancer aussi, ça a ouvert des portes au niveau de l'Heroic Fantasy, et on voit avec Game of Thrones en série télé, et je pense qu'il y en aura d'autres, soit en série, soit en film, d'autres bouquins, des séries sympas qui méritent d'être mis en image, quoi. Voilà, mais Bilbo 3, Berk.
D'accord. Voilà, alors gueuler, ça sert à rien, mais qu'est-ce que ça soulage ? Je te le conseille.
Merci Saint-Xavier de nous aider de ce point de vue-là. Sophie, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Non ? Tu as le droit de ne rien avoir à dire.
Quand le train sera passé.
Bah voilà, t'as peut-être un coup de gueule contre les trains qui passent à chaque fois que tu vas parler.
Je te coupe systématiquement la parole.
Non,
je... Ok. Morgane,
notre spécialiste du coup de gueule, peut-être ?
Le coup de gueule.
Non,
cette histoire d'avatar là, c'était quoi?
Oui, et puis en plus c'était même pas un coup de gueule. Ah non, bah alors d'accord. Alors je vais partager le dernier coup de gueule que j'ai fait sur ma page perso de Facebook, qui ne concerne absolument pas Julien Morgan, mais là par contre Morgan, c'est-à-dire moi, bête lecteur qui achète des e-books. Et qui me suis retrouvé dernièrement très très enthousiasmé par un livre dont une amie auteure m'a parlé. D'ailleurs, je vais dire le nom du livre. Ça s'appelle The Eighth Day par Diane Salerni. C'est un roman jeunesse dans lequel un jeune garçon découvre qu'en fait, il y a un huitième jour dans la semaine qui lui a été caché pendant toute son enfance. Bref. Mais voilà, c'est un livre qui est très rigolo. J'ai pas encore terminé de le lire, donc je vais réserver mon avis. Mais en tout cas, ce livre-là, j'ai essayé de l'avoir par des moyens tout à fait légaux et de payer mon dû pour que l'auteur touche
le sien.
Voilà. et je me suis retrouvé avec un e-book avec DDRM, format propriétaire, enfin tout ce qui va bien, un e-book que je ne pouvais pas lire sur ma liseuse. Et n'étant pas totalement... Étant un petit peu dégourdi, je suis allé immédiatement sous l'effet de la colère chercher sur un site pirate si je ne trouvais pas l'e-book. Je l'ai trouvé très facilement et j'ai découvert au passage un super site pirate d'e-book. Non mais voilà, ça fait sourire, mais le problème il est là. C'est que moi, je suis très honnête, j'ai payé pour un e-book parce que c'est mon code éthique. Le site pirate dont je vous parle, j'ai déjà oublié le nom, je ne l'ai même pas gardé en mémoire, j'irai probablement pas retourner dessus, sauf dans un cas similaire.
Il ne sera pas sur le site internet du podcast.
Je ne retournerai pas sur... Non, en plus, c'était un truc bulgare, donc le nom, je ne me rappelle même plus. Mais voilà, comment le Pékin moyen, honnête et de bonne foi, qui a envie d'acheter son livre et de participer à l'économie du livre, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, se retrouve sur des sites pirates et puis finalement se dit « Bon, bah, en même temps, si je peux le trouver là et que je peux aussi trouver ça et aussi
plus
ça... »
Plus facilement encore que la galère du DRM...
Voilà, moi je trouve ça lamentable, ça vient puisque c'est un coup de gueule, on va le citer, c'est l'éditeur américain HarperCollins qui là déconne complètement, alors que paradoxalement ils ont une politique de prix d'e-book plutôt correcte et un site très bien fait, mais voilà, c'est dans la gadoue.
Alors j'en profite pour intervenir parce que c'est très intéressant ça. On s'aperçoit que plus on essaie de faire chier les gens pour pas qu'ils piratent, et plus, en fait, on ne fait que promouvoir le piratage.
Que les inciter à pirater.
Et à pirater mieux. Alors, ça a peut-être un but pédagogique, mais si c'est pour éviter qu'ils piratent,
il y a un agenda secret,
eh bien,
là-dessous.
C'est raté.
Oui, on peut pas non plus cautionner le piratage, notamment d'œuvres de ce type, hein, puisque toi, Morgane, je pense que t'es pas super content quand on pirate ton bouquin ou tes bouquins. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, en fait, non, moi je suis pas un exemple parce que je m'en fous un petit peu. Et quand il y a des gens quand il y a des gens qui me disent j'ai pas de sous, je leur dis bah écoute, donne-moi ton mail, je t'envoie mon bouquin au format e-pub et voilà.
Donc, ouais, mais ça c'est pas du piratage, ça c'est de la discussion.
Oui, voilà. C'est
un peu différent.
Mais on pourrait en parler, hein, c'est des problèmes de copyright et de la rémunération des artistes. Moi c'est un. Je suis pas artiste du tout, mais ça me passionne, ça me fascine, et il y a beaucoup de choses à dire.
Et ben, je pense que ce sera le
prochain podcast.
Rendez-vous est pris.
Prochain podcast en 74 parties.
Voilà, c'est ça. C'est ça. De toute façon, je vous l'avais annoncé il y a un moment. Moi, mon format de podcast, j'essaye de... On le découpe un petit peu, mais le format idéal pour moi, c'est la discussion entre un groupe de gens qui ont des choses à dire intéressantes. Je pense qu'on y est à peu près arrivé ce soir, et donc j'en suis absolument content. Si j'avais un coup de gueule, ce serait peut-être sur le manque de podcasts sur le jeu de rôle en général en français, puisque il y en a qui font du très bon boulot, mais il n'y en a pas assez. Moi, j'écoute énormément de podcasts, et j'en ai pas assez à me mettre dans les oreilles en français. Donc... j'encourage tous ceux qui pourraient nous écouter à se lancer dans l'aventure, à faire mieux que ce qu'on a fait ce soir.
Cthulhu est
d'accord avec moi, donc c'est parfait.
On peut même l'élargir, je dirais, à la création para-rôlistique. Je dirais pas que le podcast, mais tout ce qui tourne autour du jeu de rôle.
Oui, bien sûr.
Que ce soit la web-série, la bande dessinée, le roman. Il y a énormément de choses potentiellement à faire. Aujourd'hui, avec les technologies dont le Pékin moyen dispose, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le niveau de qualité, il peut être variable, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'initiatives qui se lancent pour justement faire aussi promouvoir le jeu de rôle, le faire connaître en dehors de la sphère et puis, en mixant les codes.
On ne dira jamais assez. Moi, je reviens à mon expérience avec Johan Scipion, qui me fait écrire et réécrire mes scénars. Il faut se lancer, il faut écrire, il faut réécrire, il faut faire. Et si les premières, je fais un deuxième coup de gueule après le coup de gueule. Si on a un drame en France, c'est que les gens n'osent pas.
C'est toi qui disais pas au début qu'il fallait
pas. Non, il faut pas. Voilà. Faites comme je dis, pas comme je fais, chers auditeurs. En France, on a le drame de la bonne réponse. On veut que quand on fait quelque chose, ce soit parfait. Seulement, Michel-Ange, quand il a peint la chapelle Sixtine, il venait pas de démarrer la peinture. Et il faut faire, il faut se lancer, il faut oser.
Et accepter que ce soit pas parfait, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les chroniques, on termine, tant pis, peut-être elles auraient été mieux si on avait pris 6 mois au lieu d'un pour la faire, mais au moins elle a le mérite d'exister.
Et on progresse dans sa pratique.
Un podcast par mois, ça me paraît très bien aussi. Effectivement, aujourd'hui, c'était peut-être pas parfait. La prochaine fois, tu tireras des leçons, tu inviteras plus les mêmes parce qu'ils étaient nuls, et tu gagneras en qualité.
Exactement.
On appellera la SNCF pour qu'ils bloquent les trains le temps de l'enregistrement.
Exactement.
Du podcast.
Des esclaves qui serviront du vin aussi.
Des esclaves qui servent du vin, je note. En toge.
Ouais.
Monsieur est exigeant, mais monsieur est éditeur, c'est pour ça.
Et pieds nus pour pas qu'il fasse de bruit.
Exactement.
Ah, pieds nus pour pas qu'il fasse de bruit, c'est parfait. Bah, écoutez, je vous remercie tous pour cette participation et ce premier podcast, j'en suis vraiment très heureux. Écoutez, on va refaire un dernier tour de table avec un dernier mot, Benoît, un dernier mot.
Biscotte.
D'accord, Sophie.
Chou-fleur.
Merci, Julien.
Logan.
Altaride.
Parfait. Eh bien, au revoir.